Bienvenue à toutes et à tous pour ce temps de culte de Pâques que nous voulons vivre tous ensemble. Le thème de ce soir sera Jésus face à l'humanité. Pâques, c'est la base de la foi chrétienne et c'est ce qu'on veut vivre ce soir, un temps consacré à Dieu, consacré au message de Jésus-Christ. Et pour commencer, je vais inviter les couples à venir sur l'estrade pour chanter un premier chant qui s'intitule « Glorifie ton nom ».
Avoir ainsi prié, Jésus s'en alla avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec eux. Or, Judas, qui le trahissait, connaissait bien cet endroit, car Jésus s'y était rendu souvent avec ses disciples. Il prit donc la tête d'une troupe de soldats et de gardes fournis par les chefs des prêtres et des pharisiens. Et il arriva dans ce jardin. Ces hommes étaient munis de lanternes, de torches et d'armes. Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda : « Qui cherchez-vous ? »
Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » « C'est moi, leur dit-il. » Au milieu d'eux se tenait Judas, celui qui le trahissait. Au moment même où Jésus leur dit « C'est moi », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent par terre. Une seconde fois, il leur demanda « Qui cherchez-vous ?»« Jésus de Nazareth », répétèrent-ils. « Je vous ai dit que c'était moi », reprit Jésus. « Puisque c'est moi que vous venez chercher, laissez partir les autres. » Ainsi s'accomplit cette parole qu'il avait prononcée peu avant. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. »
Jésus vient donc de décider de se retirer au jardin de Gethsémané avec ses disciples. C'est le soir, comme on l'a entendu au verset 3. Les soldats qui sont venus l'arrêter ont pris leurs lampes, leurs torches, leurs lanternes. Ils sont donc venus dans ce jardin pour camper pour la nuit. Et c'est un lieu qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Ça nous est dit aussi dans le texte. Ça nous est dit aussi dans l'évangile de Luc, au verset 21-37. C'est un lieu que Jésus et ses disciples, lorsqu'ils étaient à Jérusalem, utilisaient pour camper pour la nuit. Jésus, les disciples, sont donc au jardin de Gethsémané. Et au moment où il va être arrêté, Jésus sait déjà ce qui va lui arriver. Et il va d'abord subir la trahison de Judas, un homme ordinaire, pécheur, qui recherche l'amour de l'argent, l'avarice. Et il va être arrêté par les soldats et les huissiers envoyés par les responsables du pays, les responsables de l'époque, les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et dans certaines versions, une traduction, il nous est dit plus précisément que les soldats étaient une cohorte. Et une cohorte, c'est rien de moins que 600 hommes. 600 hommes venus arrêter un agitateur. Ils arrivent au jardin de nuit. Jésus aurait pu s'enfuir, comme ses disciples, comme nous le dit l'évangile de Marc 14:50. Il ne se dérobe pas à ses responsabilités. Jésus est pleinement conscient de ce qui va lui arriver et il va au-devant d'eux. Et il leur pose la question, « Qui cherchez-vous ?» Réponse, « Jésus de Nazareth. » La réponse de Jésus, « C'est moi. » Et ce « c'est moi » est très très important parce que, littéralement, dans l'araméen et dans la traduction du grec du Nouveau Testament, il veut dire « je suis ». Le « je suis » nous fait tout de suite penser au texte de l'Exode, Exode 3:14, où Dieu dit « je suis ». Il nous fait penser aussi, un peu avant, dans l'évangile de Jean, en 8:58, « avant qu'Abraham fût, je suis ». Par cette réponse, Jésus à la fois s'identifie, très clairement, pour dissiper tous les doutes. Et il le répète même deux fois. Au verset 5, il dit un premier « c'est moi ». Et au verset 8, Jésus répondit « je vous ai dit que c'est moi ». Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Jésus a le souci de ceux qui l'entourent, le souci de ses disciples, c'est bien lui, Jésus. La deuxième partie de cette réponse, de ce « c'est moi », elle proclame sa divinité. « Je suis, c'est moi ». Et la réponse de Jésus est tellement pleine d'autorité qu'elle fait reculer les soldats et elle les fait même tomber devant Jésus. On voit que ce n'est pas une réponse anodine, ce c'est moi. C'est une réponse très puissante, très forte de la part de Jésus. À travers cette arrestation, à travers tout ce qu'accomplit Jésus ce soir-là, il accomplit pleinement le plan de son Père, le plan de Dieu.
Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas de la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple.
Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Cet autre disciple était connu du grand prêtre, si bien qu'il entra en même temps que Jésus dans la cour intérieure de la maison du grand prêtre. Mais Pierre resta dehors près de la porte. Alors, l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit et parla à la femme qui gardait la porte. Puis il fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme-là ? » « Non, je n'en suis point, » répondit-il. Il faisait froid. C'est pourquoi les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu autour duquel ils se tenaient pour se réchauffer. Pierre aussi se tenait avec eux et se réchauffait. Le grand prêtre interrogea alors Jésus sur ses disciples et sur l'enseignement qu'il donnait. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où se rassemblent tous les Juifs. Je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit. Ils savent bien, eux, de quoi je leur ai parlé. »
À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai dit quelque chose de mal, montre-moi en quoi. Mais si ce que j'ai dit est juste, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya alors, toujours ligoté, à Caïphe, le grand prêtre. Pendant ce temps, Simon-Pierre, lui, restait là à se réchauffer. On lui demanda, « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme ?» Mais Pierre le nia en disant, « Non, je n'en suis pas. » L'un des serviteurs du grand prêtre, qui était parent de l'homme, à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit, « Est-ce que je ne t'ai pas vu avec lui dans le jardin ?» Mais Pierre nia de nouveau. Et à ce moment-là, même, un coq chanta.
Pierre, un tempérament enthousiaste, sûr de lui, voire passionné, convaincu de la force de sa foi. « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort », affirme-t-il dans Luc chapitre 22, verset 33, lorsque Jésus lui annonce qu'il va le renier. N'a-t-il pas en effet tout quitté pour suivre son maître ? Lorsque l'on voit Pierre brandir son épée et frapper Malchus, serviteur du souverain sacrificateur, venu dans le jardin de Gethsémané pour arrêter Jésus, on serait effectivement tenté de voir en lui un homme vaillant, pleinement consacré à son maître et à sa foi. Quel exemple de bravoure et de loyauté pourrait-on se dire ? Or, trois fois, il reniera Jésus dans la cour du souverain sacrificateur, lorsqu'il lui sera demandé, « N'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Notons que ce n'est pas une fois, mais trois fois que Pierre va renier Jésus. Cette répétition de l'acte du reniement a une grande importance. Elle a valeur de démonstration. C'est une véritable leçon de vie pour Pierre. Lorsqu'il est en présence de Jésus, qu'il regarde dans sa direction, notre homme affiche une grande assurance, mais dès lors qu'il se détourne de celui en qui il croit, sa foi défaille. La contradiction entre l'apparente solidité spirituelle de Pierre et la réalité est montrée du doigt. La consistance réelle de sa foi est mise à nu, dépouillant le disciple de ses certitudes, l'obligeant à considérer ses faiblesses avec humilité. Cet épisode dans la vie du disciple a certes été une épreuve de foi éprouvante et douloureuse, Il en a pleuré amèrement. Mais il me semble que ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'il sera malgré tout un grand disciple au service de Dieu et de son Église. Fort de cette expérience, Pierre, après s'être laissé submerger par la honte et le désespoir, a su prendre conscience de la nécessité de faire confiance à Dieu dans les épreuves, plutôt que de compter sur ses propres forces. Cet événement l'a finalement aidé à mûrir et à fortifier sa foi. Ce qui caractérise Pierre, c'est finalement qu'il soit si humain. Comme tout le monde, il a ses faiblesses. Personnellement, je trouve assez réconfortant de savoir que Jésus ait pu aimer l'homme qu'il a renié. Il nous montre ainsi toute son humanité. Si je devais tirer une leçon de cette histoire, je dirais que même le plus convaincu et le plus enthousiaste des chrétiens peut, confronté aux circonstances éprouvantes de la vie, tourner le dos à Jésus à un moment ou à un autre de son existence. À l'instar de Pierre, ne nous laissons donc pas submerger par les épreuves qui sont les nôtres, mais servons-nous-en pour grandir spirituellement, les yeux tournés vers celui qui est d'éternel notre force.
À peine arrêté, à peine lié, à peine fait prisonnier, Jésus est présenté devant deux hommes, que sont Anne et Caïphe. En ce temps-là, dans la Judée, Anne et Caïphe sont souverains sacrificateurs. Ce sont des hommes très puissants. Ils sont liés par des liens de parenté. Anne est le beau-père de Caïphe. Anne incarne le pouvoir, incarne l'autorité. Caïphe, lui, l'exerce. Au moment de l'arrestation de Jésus, c'est Caïphe qui est le souverain sacrificateur. C'est lui qui est aux commandes. C'est lui le patron du Sanhédrin. Je ne peux m'empêcher de penser, finalement, que peut-être Jésus était craint de ses autorités, de ses hautes autorités. Lui était seul, il n'était pas armé. Les seules armes qu'il avait n'étaient pas matérielles, n'étaient pas meurtrières. Jésus est un seul homme dont quasiment tout le monde a pu voir et a pu entendre surtout que son royaume n'était ni terrestre, mais bel et bien céleste. Et il y a bien pour moi là un paradoxe. Dans cet homme qui n'est pas armé, on envoie une armée de 500, 600 hommes prêts à en découdre pour l'arrêter. Aussi, je vous propose de reprendre ce passage biblique, je ne vais pas le relire, mais je vais tout simplement essayer de redire quelle a été cette arrestation, comme si on pouvait la lire dans la presse ou comme si on pouvait l'entendre à la radio. Tôt ce matin, dans les jardins de la ville, les forces de l'ordre ont interpellé un individu alors que celui-ci était en train de prier. Bien connu des forces de police, l'individu a été immédiatement déféré au juge d'instruction. Après une enquête éclair, ces derniers lui ont notifié sa mise en examen et ont ordonné son placement en détention. Les faits qui lui sont reprochés, troubles de l'ordre public, outrages, injures, offenses, propos diffamatoires, les faits courent sur les trois dernières années de sa vie. Cependant, toute la lumière n'est pas vraiment faite dans cette affaire. Et cette affaire semble être entachée de nombreux faits troublants. Premier fait troublant. Les juges d'instruction chargés d'instruire le dossier ont également la charge des accusations qui pèsent sur l'accusé. Ces derniers sont tout à la fois juges d'instruction, mais aussi procureurs. Deuxième fait troublant. Pour au moins l'un des deux juges, Caïphe en l'occurrence, il s'avère qu'il a initié les accusations qui pèsent sur l'accusé. Troisième fait troublant, c'est à l'accusé d'apporter la preuve de son innocence. Or celui-ci ne cesse de réclamer que les preuves de sa culpabilité soient mises au jour et mises aux yeux de tout le monde. Quatrième fait troublant, durant sa garde à vue et sa détention préventive,
l'accusé a subi de mauvais traitements. Cinquième fait troublant, pour des faits aussi mineurs, l'accusé, risque les assises et une peine maximale. Sixième fait troublant, le président du tribunal où sera jugé l'accusé n'est autre que le gouverneur politique local de la région, Pilate en l'occurrence. Septième fait troublant et rarissime, le procès aura lieu dans les plus brefs délais. Huitième fait troublant, le doute ne profite pas à l'accusé. Il n'est pas présumé innocent, mais il est bel et bien présumé coupable avant même d'être jugé, avant même son procès. Enfin, il semble qu'aucun des vices de procédure que nous venons de décrire ne bénéficiera à l'accusé. Pour conclure, je dirais que cette chronique judiciaire peut très bien raconter une toute autre histoire, la nôtre par exemple, dans un avenir plus ou moins proche, nul ne le sait, mais dans un avenir certain, nous dit la Bible. Enfin, que dire lorsque nous pensons que cette chronique raconte déjà à peu de choses près? Que dire quand nous pensons que cette chronique raconte déjà l'histoire de certains chrétiens de par le monde? À présent, il m'a été demandé d'annoncer la chorale pour un chant.
Thank you. Cette lecture est extraite donc de l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 28, pardon, jusqu'au chapitre 19, verset 16. On emmena Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur romain. C'était tôt le matin. Mais les chefs juifs n'entrèrent pas dans le palais afin de ne pas se rendre impurs et de pouvoir manger le repas de la Pâque. C'est pourquoi le gouverneur Pilate vint les trouver au dehors et leur demanda :
De quoi accusez-vous cet homme ?
Si ce n'était pas un malfaiteur, nous serions venus le livrer.
Alors Pilate leur dit :
Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi.
Nous n'avons pas le droit de condamner quelqu'un à mort.
C'est ainsi que devait se réaliser la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra alors dans le palais, il fit venir Jésus et lui demanda :
Es-tu le roi des Juifs ?
Jésus répondit :
Dis-tu cela parce que tu y as pensé toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit de moi ?
Pilate répondit :
Suis un Juif, moi ? Ceux de ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?
Jésus répondit :
Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici-bas.
Pilate lui demanda :
Tu es donc roi ?
Jésus répondit :
Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ce que je dis.
Pilate demanda alors :
Qu'est-ce que la vérité ?
Et après ces mots, il alla de nouveau trouver les Juifs au dehors et il leur déclara :
Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. Mais selon la coutume que vous avez, je vous libère toujours un prisonnier à la fête de la Pâque. Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs ?
Ils lui répondirent en criant :
Non, pas lui. C'est Barabbas que nous voulons.
Or, ce Barabbas était un brigand. Et Pilate ordonna d'emmener Jésus et de le faire frapper à coups de fouet. Les soldats tressèrent une couronne avec des branches épineuses. Ils la posèrent sur la tête de Jésus et le revêtirent aussi d'un manteau rouge. Ils s'approchaient de lui et lui disaient : Salut, roi des Juifs ! Et ils lui donnaient des gifles. Pilate sortit une nouvelle fois et il dit à la foule :
Eh bien, je vais vous l'amener ici, dehors, afin que vous compreniez que je ne trouve aucune raison de condamner cet homme.
Jésus sortit. Il portait la couronne d'épines et le manteau rouge. Pilate leur dit :
Voilà l'homme.
Mais lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils crièrent :
Cloue-le sur une croix ! Cloue-le sur une croix !
Et Pilate leur dit :
Allez le clouer vous-même sur une croix, car je ne trouve personnellement aucune raison de le condamner.
Les Juifs lui répondirent alors :
Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, car il a prétendu être le Fils de Dieu.
Quand Pilate entendit ces mots, il eut encore plus peur. Il rentra dans le palais et demanda à Jésus :
D'où es-tu ?
Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors :
Tu ne veux pas me répondre ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et aussi celui de te faire clouer sur une croix ?
Jésus lui répondit :
Tu n'as aucun pouvoir sur moi à part celui que Dieu t'a accordé. C'est pourquoi l'homme qui m'a livré à toi est plus coupable que toi.
Et dès ce moment, Pilate cherchait un moyen de relâcher Jésus. Mais les Juifs se mirent à crier :
Si tu relâches cet homme, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se prétend roi est un ennemi de l'empereur.
Et quand Pilate entendit ces mots, il fit amener Jésus dehors. Il s'assit sur le siège du juge, à l'endroit qu'on nomme Gabata en hébreu, qui signifie place pavée, et c'était le jour qui précédait la fête de la Pâque, vers midi. Il dit aux Juifs :
Voilà votre roi.
Mais ils se mirent à crier :
À mort, cloue-le sur une croix.
Pilate leur dit :
Faut-il que je cloue votre roi sur une croix ?
Et les chefs des prêtres répondirent :
Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur.
Alors, Pilate leur livra Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. Ils l'emmenèrent donc. Je vous propose de prendre le chant qui se nomme « Au tribunal, Jésus se tient », qui se trouve sur vos programmes. On va le chanter ensemble.
Thank you. Alors Pilate le leur livra pour qu'ils soient crucifiés. Ils s'emparèrent donc de Jésus. Celui-ci, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé « lieu du crâne », en hébreu « Golgotha ». C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et deux autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne. Celle de Jésus était au milieu. Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription.
Jésus de Nazareth, le roi des Juifs.
Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate.
Il ne fallait pas mettre le roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ».
Pilate répliqua.
« Ce que j'ai écrit restera écrit ».
Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était sans couture, tissée tout d'une seule pièce de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux.
Au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura.
C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma tunique au sort. C'est exactement ce que firent les soldats.
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère,
« Voici ton fils. »
Puis il dit au disciple,
« Voici ta mère. »
À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'Écriture soit accomplie,
« J'ai soif. »
Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit
« Tout est accompli ».
Il pencha la tête et rendit l'esprit. Comme on était à la veille du sabbat et de plus d'un sabbat particulièrement solennel, les chefs des Juifs voulaient éviter que les cadavres restent en croix durant la fête. Ils allèrent trouver Pilate pour lui demander de faire briser les jambes des suppliciés et de faire enlever les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau.
Après ces événements, Joseph, de la ville d'Arimathée, alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du Seigneur, mais il s'en cachait par peur des autorités religieuses. Pilate y consentit. Joseph alla donc prendre le corps de Jésus. Nicodème vint également. C'était lui qui, auparavant, était allé trouver Jésus de nuit. Il apporta environ 30 kg d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge funéraire en y mettant des aromates selon les usages funéraires des Juifs. Non loin de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin dans lequel se trouvait un tombeau neuf où personne n'avait encore été enseveli. Comme c'était pour les Juifs le soir de la préparation du sabbat, ils déposèrent Jésus dans cette tombe parce qu'elle était toute proche.
Car Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, face à l'humanité, c'est la lumière. Face aux artifices et aux éclairages faussés de cette même humanité. Cette lumière qui, ici, sera symbolisé par ces lampes, ces lanternes, ces flambeaux dans le jardin de Gethsémané. Les soldats, les huissiers, Judas, ils avaient leur propre éclairage dans la nuit ténébreuse du jardin, venant chercher Jésus. Mais qui cherchait-il vraiment? Les soldats, eux, ils étaient venus chercher un brigand. Ils étaient venus nombreux. Les huissiers, mandatés par les sacrificateurs, eux, ils étaient venus chercher un présumé coupable. Tel était leur éclairage du moment. Et Judas, éclairé par l'appât du gain, était venu chercher son salaire, son butin. Alors, pas étonnant qu'il soit venu en armes avec de pareils éclairages. Oh, que nous puissions nous laisser éclairer par cette parole qui seule nous révèle la vraie personne de Jésus. Ils ne sont pas repartis avec le « je suis », mais ils sont repartis avec ce brigand, ce présumé coupable. Ils sont repartis avec leur salaire, ceux qui sont venus chercher. Que nous puissions nous laisser éclairer par cette parole. La Bible nous dit « cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Jésus face à l'humanité, c'est la vérité face au mensonge. C'est la vérité face souvent à nos réalités du moment qui souvent masquent la vérité. Et cela nous renvoie à Pilate qui vient vers Jésus et qui lui dit cette parole. « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Réalité du moment de Pilate. Mais Jésus, lui, il va le regarder, il va lui dire cette parole extraordinaire, cette vérité absolue. « Tu n'as de pouvoir sur moi que celui qui t'a été donné d'en haut. » Vérité absolue. Quelle est notre réalité du moment? Est-ce notre jeunesse qui nous fait dire « Mais finalement, j'ai le temps de me préoccuper des choses de Dieu. » Est-ce mon capital santé, mon compte en banque qui me font dire que finalement, je n'éprouve pas le besoin de Dieu? La Bible, elle, ne nous dit pas ça. La Bible nous dit que c'est aujourd'hui le temps favorable pour venir et pour le rencontrer comme Sauveur et Seigneur. Est-ce peut-être les vicissitudes de la vie qui nous font dire que Dieu est injuste, que Dieu n'est pas amour? Mais la Bible ne tient pas ce discours-là. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus la lumière face à l'humanité, Jésus la vérité face à l'humanité, mais Jésus la vie également face à l'humanité. Jésus le Fils de Dieu face à l'humanité. Et cette foule qui crie, et nous l'avons entendu tout à l'heure, « Hôte, hôte, crucifie !» Nous ne voulons pas celui qui se réclame étant d'être le Fils de Dieu. Et en refusant le Christ, ils n'ont d'autre choix que de libérer Barabbas. Barabbas qui veut dire fils d'un père. Et cette notion même nous renvoie à une autre réalité qui consiste à dire que notre humanité est de père en fils. Nous renvoie à cette réalité que notre père commun à chacun, c'est Adam. Adam qui a péché et qui a transmis cette nature pécheresse de fils, de père en fils. Et en refusant Jésus-Christ, ils se sont donnés comme choix d'humanité Barabbas. Barabbas, le fils d'un père. Oh, que nous puissions entendre cette parole du Christ à la croix de Golgotha. Jésus face à l'humanité, c'est cette parole d'amour extraordinaire qui consiste à dire, cette prière d'amour extraordinaire qui dit « Père, pardonne. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Un malfaiteur à sa droite et l'autre malfaiteur sur sa gauche. L'un d'eux incarnant l'humanité qui refuse le Christ, incarnant l'humanité pécheresse qui s'auto-justifie et qui ne connaîtra pas la vie. Et puis l'autre, reconnaissant en Jésus cet agneau immolé, cet innocent qui meurt pour nous, pécheurs, et qui lui dira cette parole, « Souviens-toi de moi !» Et cette promesse extraordinaire qui découle de la croix, « En vérité, je te le dis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Parole extraordinaire qui nous ramène à une autre humanité, à une autre réalité. C'est plus Jésus face à l'humanité, mais c'est Jésus au milieu. C'est Jésus avec cette nouvelle humanité. Que nous puissions aussi lire ces textes où c'est l'autre disciple qui court et qu'il entre, il voit, et la Bible dit, il croit. Cet autre disciple, certainement, c'est Jean. Il entre, mais il rentre où? Il rentre dans le tombeau, mais il voit quoi? Il voit le tombeau vide. Il voit la victoire de la lumière sur les ténèbres. Il voit la victoire de la vérité sur le mensonge. Il voit la victoire de la vie sur la mort. Il voit Jésus-Christ ressuscité. Quelle humanité voulons-nous faire partie? Est-ce que nous voulons, par nos propres éclairages, par nos réalités du moment, par cette humanité pécheresse, fils d'un père, refuser ce qu'il y a de plus précieux? Que nous puissions, comme ce malfaiteur qui a demandé pardon à Jésus, nous puissions nous approcher de lui. Comme Jean, que nous puissions rentrer dans ce tombeau, réaliser que Jésus a dit la vérité, Jésus est la vie, que le tombeau est vide, et que nous puissions plier nos genoux et appartenir à cette nouvelle humanité qui a comme pour seul sauveur et seul Seigneur, Jésus-Christ. La Bible dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voulons-nous faire partie de cette nouvelle humanité, ayant comme seul sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons écouter la chorale qui va venir et conclure notre culte de Pâques. Thank you.
Voilà, notre culte de Pâques est terminé. On veut vous remercier d'être venu ce soir pour fêter la Pâque avec nous, pour entendre la parole et pour entendre parler du message extraordinaire de Jésus-Christ à la Pâque. On veut vous inviter pour dimanche à 10h ici même pour le culte. Passez une bonne soirée et un bon week-end de Pâques. À bientôt.